This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter, le 18-20.
Édition spéciale du 18-20 ce soir, 5 ans après le début de la guerre en Syrie. Au départ, le contexte était celui des printemps dits arabes, cette lame de fond populaire qui a emporté un certain nombre de dictateurs et devait donc passer par Damas pour arracher Assad du pouvoir. Répression brutale, sécession d'une partie du pays, atermoiements internationaux, guerre civile et guerre tout court, 200 000 morts et plus de 5 millions de Syriens qui ont aujourd'hui fui leur pays, soit un quart de la population. On va relire cette page d'histoire avant d'envisager, j'ose à peine le dire, l'avenir de la Syrie.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Laissez-moi vous présenter les invités de France Inter à la Côte-Manie. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste franco-syrienne, votre sœur est l'une des négociatrices du processus de sortie de crise engagé par l'ONU. Nous l'avons reçue il y a très peu de temps, quelques semaines à peine. Mégo Terzian, bonsoir.
Bonsoir.
Président de MSF France, MSF présent en Syrie de différentes manières, on va dire les choses comme ça, depuis le début de cette guerre. Et on termine ce tour de table avec François-Xavier Trégan, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste co-réalisateur avec Thomas Dandois du documentaire Daesh, parole de déserteur, diffusé ce soir sur Arte. 5 ans après, on va commencer par là, à la Côte-Manie. Quel sentiment domine chez vous? Colère, dégoût, combativité, espoir?
Tout à la fois.
Oui.
Je crois qu'il y a tout ça à la fois, parce que c'est vrai qu'il y a 5 ans, qu'on n'aurait jamais imaginé, 5 ans après, en être là où on est aujourd'hui. Mais en même temps, c'est plein de, il y a des rebondissements, il y a sans arrêt des inattendus qui font que on, c'est vrai, un coup on prend espoir, un coup on est complètement accablé, un coup c'est dramatique, mais bon, pour la population ça continue d'être dramatique.
D'être dramatique de toute façon. Mégo Terzian, même question.
Pour moi et mes collègues, c'est le désespoir, c'est le désespoir. Depuis au moins 2 ans, la réponse humanitaire de Médecins Sans Frontières et aussi d'autres acteurs internationaux, donc la réponse n'est pas à la hauteur des besoins humanitaires. On n'arrive pas à travailler correctement. Pour moi, c'est l'échec de Médecins Sans Frontières depuis au moins 2 ans, en tout cas.
Vous ne parvenez même pas d'une manière ou d'une autre à aider sur le terrain, mais en tout cas pas de la, comment dire, pas de manière, pas en relation avec l'ampleur des besoins, j'imagine.
Oui, oui, on a 2 hôpitaux à Alep et Adleb gérés par Médecins Sans Frontières avec notre personnel syrien. On a plus 100 de structures de santé un peu partout dans le pays. Mais est-ce que l'aide arrive à la destination finale? Est-ce que l'aide est distribuée d'une façon neutre à tout le monde? Ça, on a des doutes. L'autre échec, ce sont les zones assiégées où depuis des mois, on n'arrive plus à acheminer des médicaments ou du matériel médical.
Et pour vous, François-Xavier Trégan, 5 ans après, quel sentiment domine?
Un grand gâchis. L'étincelle de mars 2011 était très très inattendue, de voir ce peuple pacifiquement qui se rebellait contre des décennies de tyrannie, hein, pas que uniquement Bachar al-Assad, mais la dynastie Assad, disons, le père et le fils. Et énorme gâchis, car il était peut-être possible, à ce moment-là, avec beaucoup de courage politique et de clairvoyance, d'anticiper aussi cette féroce répression et le fractionnement de ces groupes. Voilà, donc un grand gâchis.
À la Côte-Manie, est-ce qu'on peut dire que vous avez perdu des batailles, mais pas la guerre?
Oh, tout le monde a perdu beaucoup de batailles. Si, de toute façon, je crois que aucun Syrien n'est gagnant. Hein. Ça, quoi qu'il arrive, quand on voit l'état du pays, la dévastation, l'état de la population, toutes les pertes humaines, l'état de la société, je crois qu'il n'y a pas de gagnant. Il y a pas, on a, tout le monde est perdant là-dedans. Maintenant, il faut juste essayer de recoller. L'espoir, c'est de recoller des morceaux, d'aller au plus vite, enfin que ça s'arrête au plus vite. Et de récupérer ce qu'on peut récupérer. Mais il est certain qu'on ne peut pas parler aujourd'hui. N'importe quel Syrien qui se dit victorieux est vraiment un criminel.
Assad, point d'interrogation.
Assad, il a une chance incroyable. Il a eu une chance absolument invraisemblable. Bon, une cruauté, ça on le savait. Mais la chance d'avoir des amis... comme il a, d'avoir été sauvé pendant un certain temps par les Iraniens, puis encore diplomatiquement par les Russes, puis militairement par les Russes. Et à chaque fois qu'il est tombé, il y avait quelqu'un pour le rattraper. C'est absolument phénoménal et incompréhensible.
S'il y en a un qui a gagné jusqu'à présent, c'est lui, même si son pouvoir est abîmé, contesté, et que le pays a littéralement explosé.
Bah, il n'arrête pas de gagner des batailles, mais il n'a pas gagné la guerre. Il continue de gagner 3 mois, 6 mois. Là, je crois que dernièrement, il doit pas être très à l'aise avec la décision russe de le lâcher.
De quitter le territoire. Qu'on apprenait effectivement ici même en direct hier soir à peu près à la même heure. Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir.
On va revenir donc avec vous sur quelques dates clés, sur des événements charnières de ces 5 dernières années. Moment capté par les envoyés spéciaux de France Inter.
Oui, et pour bien comprendre qu'il s'agit depuis le début d'une authentique et dramatique guerre civile. Direction d'abord Alep, la grande ville du nord de la Syrie. Nous sommes le 13 août 2012. La bataille pour le contrôle de la ville fait rage depuis 13 mois déjà entre l'armée fidèle à Bachar el-Assad et les insurgés qui sont organisés en Katiba, ces petites unités de combattants très mobiles mais totalement démunies face à la puissance de feu de l'aviation syrienne. Reportage signé Étienne Monin.
Tout au nord, après l'une des entrées de la ville, on voit 2 immeubles complètement éventrés, tordus par les bombardements. Dans cette petite partie du nord-est d'Alep, quelques commerces sont restés ouverts. On voit des parents et des enfants dans la rue. On ne traverse pas un quartier fantôme, mais on sent la pression et l'inquiétude des bombardements. La principale katiba de la ville doit déménager régulièrement. Les avions bombardent avec trop de violence et de précision. Salé, jeune activiste au visage très pâle et à la démarche fatiguée. Le plus gros problème, ce sont les avions, parce que l'artillerie, vous pouvez vous protéger quelque part. Les avions, ils vous suivent partout où vous allez. On est obligé de se déplacer tout le temps. On essaye de se cacher comme ici, dans le bâtiment, au sous-sol, peut-être à 2-3 étages en sous-sol. On essaye de se cacher, mais en général, ça ne fonctionne pas. Ces avions, ils peuvent transporter des bombes de 2,5 tonnes. On n'a pas de missiles anti-aériens jusqu'à présent. On espère juste qu'ils vont tomber ou qu'ils vont disparaître. Cachés entre 2 immeubles d'habitation, les insurgés à tour de rôle ciblent un hélicoptère qui fait des cercles à moyenne altitude. Derrière l'engin qui semble narguer les Kalachnikovs, on voit l'un de ces avions de chasse tellement redoutés tourner sur l'aile avant de disparaître dans un autre secteur de la ville.
Voilà, Étienne Monin à Alep, et quelques semaines plus tard, l'aviation de Bachar el-Assad accentue encore ses bombardements sur toutes les agglomérations du nord du pays. Rébellions et civils visés sans distinction, affirme alors Human Rights Watch, comme ici, dans la localité de Mara, où s'était rendu fin août 2012 Sébastien Eugénie.
C'était vendredi dernier. Comme chaque semaine à Mara, une centaine de personnes s'étaient rassemblées pour chanter contre Bachar. À la fin de la manifestation, un habitant nous invite à boire le thé. Nous commençons une interview, mais soudain, des cris résonnent dans la rue. Un MiG, un avion de chasse, arrive sur la ville, la terreur des habitants. L'avion n'est maintenant qu'à 300 mètres au-dessus des habitations. Puis le chasseur s'éloigne, remonte en altitude, on le croit parti, mais il revient, cette fois-ci pour bombarder. Un nuage de poussière monte à l'horizon, l'avion a frappé à quelques centaines de mètres. Premier impact, une maison vide. Un homme brandit un morceau de métal déchiqueté, encore brûlant, les restes d'une bombe de 250 kilos.
Ça, vous voyez, c'est les réformes promises par Bachar.
Quelques rues plus loin, les traces du deuxième impact. Un cratère de 5 mètres de large. Là aussi, les murs sont criblés de morceaux de métal, tranchants comme des couteaux.
Nous sommes des civils, nous n'avons pas de relation avec l'armée libre. Ils nous tirent dessus juste pour qu'on parte. Ils ne peuvent pas faire face aux rebelles à Alep, alors ils viennent détruire notre ville. On ne partira pas de cette ville tant que Bachar n'est pas mort.
Depuis un mois, les bombardements sur Mara sont réguliers, au moins une fois par semaine, mais ce professeur de français ne quittera pas pour autant sa ville natale.
Ici, à Mara, tous les jours, les gens ont peur des avions. Il y a beaucoup de familles qui sont parties de Mara envers les environs comme des réfugiés. Tous les gens n'ont pas de la courage. Il y a des gens qui ont peur.
vous, pourquoi vous restez là ?
Parce que je préfère mourir ici.
Ce vendredi-là, il n'y a pas eu de mort, que des blessés, 6 habitants, dont un enfant de 2 ans, gravement touché.
Voilà, un reportage signé Sébastien Legénie, c'était donc fin août 2012.
À Mara, dans la localité de Mara, Alep Mara, ça vous évoque quoi quand vous entendez ces tout premiers reportages que nous pouvions, à l'époque encore, aller faire sur le terrain, la Côte Manie ?
Oui, je crois que c'est la première idée que j'ai eue, c'est que c'était une époque où, effectivement, toutes ces zones, malgré la guerre, étaient possibles à couvrir par les journalistes. Mmh. Et donc, on pouvait vraiment savoir ce qui s'y passait vraiment. Et là, depuis 2 ans pratiquement, après les enlèvements, après la présence des djihadistes dans toutes ces zones, les journalistes ne peuvent plus y aller. Et je crois que ça a complètement transformé la vision. D'abord, ça a brouillé. Bon, moi, j'ai pu y aller quand même quelques fois. Mais globalement, le fait que des journalistes étrangers ne puissent pas aller voir directement ce qui se passe rend une image très brouillée du terrain.
MSF était mégotersien sur le terrain encore à l'époque ?
Oui, à l'époque, on était sur le terrain. J'étais plusieurs fois dans cette petite ville de Maraya. La situation, ça allait jusqu'à il y a 2 ans, plus ou moins, la situation était correcte. Mais selon les dernières informations venant des médecins syriens qui osent travailler dans cette zone depuis plusieurs mois et surtout depuis le début des bombardements de l'aviation russe, la situation est devenue catastrophique avec un mouvement massif des populations vers le district de Azaz et aussi vers la frontière turque où plusieurs sont bloqués depuis des semaines maintenant.
Et à l'époque, quand on l'entendait dans le reportage de Sébastien Legénie en août 2012, donc, quand des MiG larguent des bombes de 250 kilos, vous soignez quel type de blessure ? J'ose à peine poser la question au sol.
Toute blessure, trauma crânienne, trauma abdominal, tout type de blessure. Petit à petit, à partir de septembre 2012, les médecins syriens ont installé des hôpitaux pour prendre en charge les victimes de violence. Par contre, tout le reste, c'est-à-dire une femme enceinte qui nécessite un accouchement, un enfant qui a une pneumonie, une diarrhée, cette catégorie de patients n'avait plus accès et n'ont toujours plus accès aux soins. C'est ça la réalité.
À l'époque, à la Côte Manie, c'est l'ASL, le principal et unique groupe d'opposition. On n'a pas encore vu apparaître les djihadistes avec la force qu'ils ont pu prendre par la suite.
Absolument. Et maintenant, dans cette zone de Marais, justement, toute cette partie du nord d'Alep, on a un assemblage, enfin une imbrication des forces absolument invraisemblable, puisqu'on a des brigades de l'armée syrienne libre qui continuent d'être sur place, enfin des locaux. On a Daesh, donc l'État islamique, qui contrôle toute une partie de l'est d'Alep. Une partie qui est toujours d'Alep, qui est toujours contrôlée par le régime. Et il faut savoir que ça se bat dans tous les sens. Et que les populations, comme disait M. Terzian, c'est terrible, ils ont été... Ah, j'ajoute aussi les Kurdes, on a oublié, qui a aussi...
On va les retrouver tout à l'heure.
Il y a aussi les Kurdes qui sont dans cette même zone, de quelques kilomètres carrés. On a pratiquement 4 forces qui se battent dans tous les sens. Mmh. Et la population qui est exclue de tout ça.
François-Xavier Trégan, quand vous réentendez ces reportages diffusés à l'époque sur France Inter, quand on entend également la violence des combats, le caractère disproportionné de l'usage de la force sur des civils, qu'éprouvez-vous ? Quelle analyse formulez-vous ?
Je pense aussi, pour compléter nos deux autres invités, que je pense aussi beaucoup à ces journalistes syriens et ces activistes des médias qui tentent malgré tout toujours aujourd'hui de documenter au mieux les poches de résistance, les combats et tout ce qui échappe par force aujourd'hui au radar médiatique. La plupart sont basés, il y en a beaucoup qui sont basés à Gaziantep, donc à la frontière turque, pas très, à quelques dizaines de kilomètres d'Alep, et qui prennent des risques inouïs pour malgré tout documenter. Donc il reste quand même c'est des personnes qui incarnent peut-être aussi l'idéal révolutionnaire et qui veulent informer aujourd'hui malgré tout.
Avec vous, Michael Thébault, on continue cette relecture, comme je le disais, des cinq dernières années. On est maintenant en mai 2013, Homs, la bataille.
La grande ville du centre de la Syrie, surnommée par les opposants au régime la capitale de la révolution. Homs qui tombe aux mains de l'armée régulière le 9 mai 2014, après un siège de presque 2 ans. Notre envoyé spécial Valérie Crova s'était rendu sur place en mai 2013, au plus fort des combats et de la confusion. Reportage.
Sur la place de l'horloge de Homs, le temps semble s'être figé. Autrefois, l'un des quartiers les plus animés de la troisième ville de Syrie, c'est aujourd'hui la ligne de démarcation entre l'armée régulière qui tient une grande partie de Homs et les combattants de l'armée syrienne libre qui ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Notre guide nous conseille de rester près des murs et de ne pas marcher au milieu de la rue pour notre sécurité. Nous entendons des crépitements d'armes. Le responsable militaire de la zone explique que ce sont les rebelles qui font le coup de feu pour accuser ensuite les soldats de l'armée syrienne de leur tirer dessus. Dans une rue adjacente, un jeune vient nous voir discrètement. Juste à côté, ils ont tué 2 hommes. Pendant 5 jours, on n'a pas pu aller les récupérer car ils nous tiraient dessus. Mais qui tirait ? Des snipers. Nous repartons en voiture pour aller cette fois à Babamer, totalement vidé de ses habitants. C'est complètement détruit. Oui, plus personne ne vit ici. Seuls quelques ouvriers viennent réparer les câbles électriques. Aujourd'hui, le gouvernement envisage de raser le quartier de Babamer pour le reconstruire après l'avoir pilonné sans relâche pendant plusieurs semaines. À Homs, Valérie Crova, France Inter.
Voilà, mai 2013 à Homs, et les rebelles n'évacueront leur dernier quartier de Homs que fin 2015.
Un peu plus récent maintenant, Michael, on est en septembre 2013 et toute la Syrie regarde alors vers les États-Unis.
Oui, semaine du 6 au 11 septembre, semaine de vote au Congrès à Washington pour ou contre une intervention américaine en Syrie. Intervention évidemment espérée par l'ASL, l'armée syrienne libre, on en parlait. Notre envoyé spécial, Philippe Randé, avait alors rencontré quelques-uns de ses dirigeants le long de la frontière avec la Jordanie.
Un appartement discret à 15 km de la frontière. À l'intérieur, plusieurs responsables de l'armée syrienne libre. Ils attendent fébrilement les prochaines heures. Abdel Assari est colonel de l'ASL.
Nous, on espère que la chute de Bachar viendra de l'armée syrienne libre et pas des Américains. Car si la chute de Bachar vient des USA, le conflit actuel risque de se transformer en une vraie guerre civile. Si ça vient des Syriens, ça éviterait une catastrophe.
Et alors que la grande prière débute, Taïsir, un des activistes, sourit avant d'ajouter « Les Français vont encore croire que nous sommes tous des djihadistes ».
Peut-être qu'on a besoin d'Al-Nusra sur le terrain militaire, mais seulement pour ça. Je suis d'accord avec eux pour combattre, mais pas d'accord sur le plan politique. Leur projet n'est pas notre projet.
Et ici, l'ASL prépare déjà l'après Bachar el-Assad avec une question « Est-ce qu'un nouveau chef se détache ?»
Tout de suite, non. Jusqu'à maintenant, tous les partis étaient des partis fantômes. Nous, on espère que la jeunesse va s'emparer de la Syrie.
En attendant, l'armée syrienne libre multiplie les contacts avec les combattants en Syrie avec une conviction, tôt ou tard, les Américains frapperont.
Voilà, reportage signé Philippe Randé. Tôt ou tard, les Américains frapperont. Nous étions le 9 septembre 2013.
Votre sentiment à la Khodmani sur la non-réaction des États-Unis pendant longtemps, il y avait eu des lignes rouges, jaunes, infranchissables, usage des armes chimiques, etc. Nous ne laisserons pas faire. Ils ont laissé faire.
Ça, c'était vraiment la ligne rouge tracée à plusieurs reprises par Obama, celle de l'usage de l'arme chimique. Elle a été utilisée massivement, elle a fait 1500 morts environ dans les environs de Damas, mais je crois que ce moment est un tournant, s'il ne fallait
en garder qu'un, c'est là que
c'est
ça pivote.
Le tournant, exactement.
Pour quelle raison ?
Parce que non pas, parce qu'il n'y a pas eu intervention militaire occidentale, c'était peut-être pas nécessairement.
On l'entend bien dans le reportage.
Hein. Mais parce qu'il y a eu impunité. Parce que d'abord, la crédibilité américaine a été complètement effacée. Après, ligne rouge, il n'y a pas. Et l'impunité. On a demandé, comme disent les Syriens, simplement à l'assassin de rendre son arme. Et c'était tout ce qu'on lui demandait, puisqu'il y a eu un accord sur l'arsenal chimique syrien par la suite. Ce tournant qui a donné à Bachar el-Assad un sentiment d'hyperpuissance et d'utiliser, maintenant il pouvait tout faire, et utiliser toutes sortes d'armes pour réprimer et pour continuer, et dans le même temps, parce que c'est presque concomitant, c'est là que Daesh apparaît, monte en puissance. C'est exactement là qu'ils investissent le terrain syrien, qu'ils s'affirment à Raqqa, qu'ils commencent à prendre des positions près d'Alep, etc. Et quelque part, le désespoir, le sentiment de l'abandon total précipite certains dans les bras de ces djihadistes.
Je vous vois hocher la tête, François-Xavier Trégant. C'est bien le moment où ça bascule.
Moment déterminant, à la comédie rappelle la prise de Raqqa. Daesh va faire petit à petit de cette grande ville de l'Est syrien sa capitale politique et militaire. Et en effet, les déserteurs qu'avec Thomas Dandois nous avons rencontrés en Turquie, à ce moment-là, étaient encore membres de l'armée libre syrienne. Puis ils sont passés très brutalement du côté de Daesh.
Alors pour quelle raison ?
Alors, d'abord, ils étaient extrêmement déçus par la gestion, disons, politique et par les armes et de l'armée libre syrienne et même du front Jabhat al-Nusra, lié à Al-Qaïda. Et surtout, ils ont totalement adhéré à ce projet qui leur était vendu de califat. Et toutes ces promesses que l'on voit à travers la propagande extrêmement bien faite et bien ficelée, ils ont voulu adhérer à ça. Et là, je vous parle de déserteurs qui sont des déserteurs syriens, jordaniens, soit des locaux ou du monde arabe, des pays voisins. Donc, ils ont été les premiers convaincus. Et leur désillusion, d'ailleurs, est proportionnelle aux promesses qui leur avaient été faites.
Mais la Syrie, j'allais dire, n'a quasiment plus rien à voir avec leur combat. Puisque vous dites qu'ils sont fascinés par le califat, on change de logique là. On n'est plus dans l'armée syrienne libre, on n'est plus dans le front al-Nusra, on est dans autre chose.
Ils ont changé d'objectif, ils ont changé de cible. Très clairement, au tout départ, ils nous expliquaient qu'ils voulaient combattre Bachar el-Assad. C'était le seul et unique objectif. Une fois qu'ils avaient rejoint Daesh, c'était plus une politique d'extension et de créer des foyers durables à cheval sur la Syrie et naturellement sur l'Irak. En effet, ils ont changé de cible.
MSF a eu affaire à l'organisation État islamique Megot Erzian.
Oui, quand ils sont arrivés, on dialoguait avec eux. Ils nous ont donné des promesses comme quoi la sécurité de notre personnel va être assurée. Et le 2 janvier 2014, ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils ont kidnappé 5 collègues à moi, de Médecins Sans Frontières.
Vous dialoguiez avec eux, expliquez-nous comment ça se passe.
On dialogue avec tout le monde, avec tous les belligérants. On dialoguait aussi avec Daesh. On expliquait.
On vous envoie des émissaires. Comment ça se passe très concrètement? On vous envoie quelqu'un, un chef?
Moi-même, je me suis déplacé à plusieurs reprises. J'ai rencontré des commandants du terrain à Al-Bab, par exemple, aussi à Idlib. J'ai parlé avec eux directement pour expliquer ce qu'on fait, notre espace humanitaire sécurisé, etc. Et ils avaient un discours plutôt cohérent qui tenait la route.
Vous leur dites, on peut vous soigner éventuellement, j'imagine, vous avez une position humanitaire qui est de soigner tout ce qui se présente, j'imagine, devant vous.
Oui, nous on a dit qu'on soigne tout le monde, inclut les combattants, inclut des terroristes s'ils sont malades, s'ils sont à l'hôpital, donc ils sont considérés comme patients et on est obligé à soigner tout le monde. Et on soignait, oui, des combattants qui venaient de tous les groupes armés, inclus État islamique.
Et l'organisation État islamique, donc, je vous ai interrompu, mille excuses, rompt sa promesse. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Ils gardent nos collègues plusieurs mois, ils les libèrent après. Nous, on demande des explications sur la raison qu'ils nous ont kidnappés, mais on n'a eu aucune explication. On a demandé également des garanties écrites par la hiérarchie de ce groupe à Raqqa. Bien sûr, on ne l'a pas obtenu. Et on estime depuis 2 ans que dans leur zone, on ne peut pas travailler. On ne peut même pas envoyer de l'aide, parce que selon nos informations, l'aide est systématiquement détournée par ce groupe. Donc voilà, on est bloqué dans les zones comme Al-Raqqa et Dirzor. Depuis au moins 2 ans, on est bloqué.
C'est très compliqué, j'imagine, de se retrouver comme humanitaire, même si c'est votre travail, dans des situations humaines, idéologiques, politiques, pareilles, non ?
C'est très compliqué et malgré nos 45 ans d'expérience, on continue à gagner d'expérience, on continue à former des coordinateurs qui peuvent analyser des contextes difficiles, qui peuvent négocier notre espace. On a réussi au Yémen, j'y vais tout à l'heure, on a réussi au Yémen, mais on n'a pas réussi en Syrie. Malheureusement.
Parce que vous aviez en face de vous des idéologues qui ne voulaient plus à un moment même accepter le dialogue.
Oui, mais il y a le régime laïque, paradoxalement, qui refuse de nous parler depuis le début de la guerre. Bachar refuse de nous parler. Il y a quelques jours, leur ambassadeur à l'ONU nous a considérés des espions ou branches de renseignement du gouvernement français, etc. C'est ça leur comportement. Et depuis 2 ans, on n'arrive pas à dialoguer non plus avec les groupes radicaux qui opèrent dans le nord de la Syrie.
Et aujourd'hui, on continue, Michael, alors que la guerre entre dans sa 6e année, illustration du chaos politique complet qui règne, avec la situation au Kurdistan syrien.
Oui, on y vient, hein, dans le nord du pays, une région donc kurde, quasi autonome, et dont les combattants sont en première ligne contre les djihadistes du groupe État islamique. Bonsoir Omar Waman, correspondant de France Inter à Beyrouth.
Bonsoir Michael.
Alors vous rentrez précisément de cette région où l'on trouve toutes les forces en présence sur le même petit territoire, y compris celles du régime de Bachar el-Assad, qui cohabitent avec les forces kurdes, d'où les accusations de l'opposition syrienne. Les Kurdes joueraient double jeu, alors pas question de participer pour eux aux négociations de Genève, Omar.
Oui, lorsqu'on arrive à Kamishli, à l'extrême est de la Syrie, Kamishli qui est la capitale de ce Kurdistan syrien, on est surpris de tomber sur les portraits de Bachar el-Assad dans le centre-ville. Les forces kurdes, elles contrôlent totalement leur territoire, mais elles tolèrent effectivement la présence de quelques centaines de soldats du régime de Damas, notamment aux abords de l'aéroport de Kamishli. Abdulkarim Salouhan est le ministre des forces d'autodéfense kurde qui est chargé de protéger le Rojava, c'est le nom de ce Kurdistan syrien. Il récuse les accusations de collusion avec le régime de Bachar el-Assad.
Non, le régime syrien n'est pas notre ami. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, au début de la révolution, nous avons combattu l'armée syrienne, partout dans le Rojava, à Kamishli, à Derik, à Rumelan, à Asake, partout. Nous avons perdu de nombreux combattants dans les combats. Aujourd'hui, le régime ne contrôle pas grand-chose, sauf, c'est vrai, l'aéroport de Kamishli. Mais pour nous, il est très important que cet aéroport fonctionne, pour le bien du peuple kurde, car les gens ont besoin de voyager, notamment pour des raisons médicales. Mais n'oubliez pas que notre pire ennemi dans la région, c'est le groupe État islamique. Cela ne veut pas dire que le régime syrien est meilleur.
Les Kurdes, vous l'avez dit, Michael, qui sont en première ligne contre les djihadistes du groupe État islamique au sein d'une coalition appelée les Forces démocratiques syriennes. C'est une force composée en très grande majorité de Kurdes, mais aussi d'Arabes sunnites, de Turcomans et de chrétiens. Talal Selo est le porte-parole de cette force créée sous l'impulsion des Américains en octobre dernier.
La présence du régime syrien dans la Rojava est minime. Il contrôle seulement un carrefour à Asake et un autre à Kamishli. Il n'y a aucune relation, aucune coordination. Pour vous prouver que le régime n'est pas maître de ce territoire, lorsque ses soldats doivent aller d'un point à un autre, il doit nous demander l'autorisation. Il n'est pas maître de son territoire.
Voilà, et dans cette confusion, justement, Omar, comment ces combattants arabes opposés au régime de Bachar el-Assad vivent-ils la présence des soldats de ce même régime de Damas ?
Très mal, à vrai dire. Ils aimeraient en découdre à l'image de Ali Eja. Il était colonel au sein de la police de Jarabulus, ville frontalière de la Turquie, avant de déserter au début de la révolution.
Quand je vois le drapeau syrien, je n'aime pas ça, ça me met en colère. Après 5 ans de guerre, ce drapeau est le symbole de tuerie, de meurtre. Mais pour l'instant, notre priorité est de chasser les djihadistes. Il faut nous en débarrasser. Une fois que cela sera terminé, nous nous occuperons du régime. Il n'a pas sa place ici.
Mais pour bien comprendre la stratégie kurde, il faut aller à Kobané, ville martyre d'où les djihadistes ont été chassés. La ville est aujourd'hui contrôlée par les seules forces kurdes. Idriss Fabrice Nassan est le responsable des relations internationales pour le canton de Kobané. Il décrypte la stratégie kurde.
Évidemment que nous luttons pour la démocratie en Syrie, mais nous ne demandons pas à remplacer le régime de Bachar al-Assad comme les autres factions de l'opposition. C'est la raison pour laquelle le régime de Damas n'affronte pas les Kurdes directement, mais cela ne veut pas dire qu'il est notre allié. Nous voulons un nouveau contrat social en Syrie, car aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui est la République arabe syrienne, ce qui veut dire que ses citoyens sont des Arabes, ce qui n'est pas vrai. La majorité est arabe, mais il y a aussi les Kurdes, les Turcomans, les Chrétiens, les Alaouites. Nous luttons pour l'égalité entre tous les citoyens en Syrie.
Les Kurdes n'oublient surtout pas une chose. Avant la révolution syrienne, il y a 5 ans, ils étaient des citoyens de seconde zone en Syrie. Ils avaient même l'interdiction de parler leur langue. Aujourd'hui, ils profitent de cette liberté qu'ils ont chèrement acquise aux grandes dames de la Turquie, qui a fermé sa frontière et qui enrage de voir ces Kurdes syriens devenir totalement autonomes après les Kurdes d'Irak. Ils craignent par-dessus tout de voir les Kurdes en Turquie suivre le même chemin.
Omar Waman, correspondant de France Inter à Beyrouth, merci beaucoup.
À la Kodmani, comment décririez-vous en journaliste le jeu des Kurdes avec Damas ?
Je dirais le jeu des Kurdes de tous les côtés. Hein. D'abord, bon, je ferai une petite distinction entre les Kurdes qui sont sur le terrain, qui ont mené les batailles, qui ont...
Kobané, par exemple.
Qui sont donc, ce sont des Kurdes d'une certaine formation, majoritairement du PYD, qui est le PKK syrien, qui occupent le terrain, mais qui politiquement ne sont pas les seuls représentants des Kurdes, puisqu'il y en a une partie qui est dans l'opposition, qui est dans la coalition de l'opposition. Je dirais que les Kurdes se sont fixés comme priorité d'avoir leur territoire. Et dès lors, quelque part, c'est leur seule priorité. Après ça, nos ennemis et nos amis sont en fonction de qui nous gêne le plus ou de qui nous arrange le plus pour avoir au maximum ce territoire qu'ils se sont fixé. Ils ont bénéficié donc tantôt du soutien américain massivement, récemment du soutien russe, tantôt avec l'armée syrienne libre. Maintenant, ils s'accommodent des forces du régime. Et puis, bon, avec cette priorité de dire on combat Daesh d'abord, leur priorité, c'est d'avoir leur territoire. Ce que je peux comprendre. Mais ce n'est pas la peine d'utiliser un autre discours.
Vous ne croyez pas au discours précisément à la Kodmani qui consiste à dire que les Kurdes sont au fond les seuls combattants au sol, ça c'est vrai, mais qu'ils incarnent absolument les mêmes valeurs que nous défendons par exemple en Europe occidentale.
Écoutez,
on a pu le lire très souvent dans des tribunes, dans des journaux de formidable qualité.
Oui, oui, je sais. Je suis très gênée par cette... J'ose pas dire propagande, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de travail de communication, on va dire, autour de ça. Je crois que les territoires kurdes ne sont pas du tout gérés aussi démocratiquement que...
Oui, on dit le rôle des femmes, elles sont l'égale des hommes,
oui,
etc.
On a un petit peu instrumentalisé ces combattantes. Ça me rappelle beaucoup comment c'était... dans l'armée israélienne, à un moment donné, c'était aussi les belles soldates israéliennes et c'est les belles combattantes kurdes. Il y a un côté très communication qui n'est pas toujours la vérité.
Mégo Terzian, vous avez travaillé avec les Kurdes de Syrie.
Oui, on a une petite équipe présente à Kobané depuis plusieurs mois. On a une autre équipe qui est présente à Sakhe. On arrive à travailler, on arrive à traverser les frontières pour accéder dans ces zones. Et on n'a pas eu des problèmes majeurs avec les Kurdes.
Leurs besoins sont de quelle nature ?
Un peu comme partout en Syrie. Bien sûr, dans les zones comme Alep, Idlib, la situation est beaucoup plus grave. L'intensité des combats sont très très importantes. Au moins, eux, ils ne subissent pas des violences comme les autres Syriens, à Alep, etc. Mais ils ont des besoins généraux médical et non médical aussi, parce que tout est presque détruit à Kobané, par exemple.
François-Xavier Trégan, on va regarder maintenant où nous en sommes au terme de cette relecture des 5 années qui viennent de s'écouler. Les déserteurs de l'organisation État islamique, c'est quoi une poignée de gens perdus qui comptent peu par rapport aux masses de ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement.
Une poignée, oui. Ce groupe, l'Iwaswa Raqqa, exfiltré de Raqqa en Syrie, une centaine, disons, de combattants déçus par Daesh, mais une poignée qui est extrêmement précieuse, qui dispose d'une multitude d'informations, de renseignements sur le fonctionnement interne de Daesh, sur les cadres, sur les petites mains, sur les connivences, les collusions avec le régime de Damas, dans différents domaines, notamment le domaine de la santé ou le domaine financier.
Donc, pétrole.
Le pétrole. Donc une poignée de déserteurs qui ont beaucoup à dire, je pense peut-être, au service de
renseignement. Beaucoup d'informations.
Énormément d'informations. Et d'ailleurs, le groupe qui les exfiltre, donc Souar Raqqa, les révolutionnaires de Raqqa, nous ont expliqué avec Thomas Dandois, au fil de ce tournage qui a duré 6 mois, qui désespéraient qu'un jour, un service de renseignement, par exemple occidental, prenne leur attache pour découvrir cette masse de documents et d'informations qui pourraient peut-être, selon eux, changer le cours.
Me dites pas que c'est pas le cas.
Actuellement, ce n'est pas le cas.
On ne parle pas avec ces gens-là.
C'est pas qu'on parle pas comme ça. Je crois que j'ai eu l'occasion de découvrir, pas seulement dans le cas de Daesh, mais dans beaucoup de cas, que combien les services occidentaux ignoraient des informateurs précieux. Sur le plan militaire, sur le plan du renseignement, sur le plan... J'ai rencontré plein de gens qui avaient masse d'informations, qui ont essayé d'entrer en contact avec toutes sortes de services ou même de civils ou de quoi, d'essayer de donner les informations. On ne les écoute même pas, on ne les recontacte pas. Et là, j'ai été vraiment témoin direct de 2 ou 3 cas.
Il est 18h54, on va continuer notre réflexion sur la Syrie. Kodmani, vous nous disiez tout à l'heure à quel point la non-intervention américaine avait été le point nodal, le point de pivot de cette crise syrienne. On va essayer de comprendre maintenant pourquoi les Américains ne sont pas intervenus.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et on va le faire grâce à Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Mais pourquoi donc les Américains ne sont-ils pas intervenus en Syrie?
Eh bien c'est cette question, Nicolas, que notre correspondant à Beyrouth, Benjamin Barthes, a eu en tête tout au long d'une enquête qu'il a menée en Turquie, dans la galaxie des opposants syriens, et que Le Monde publie ce soir. On croyait tout savoir sur cette descente aux enfers qu'est la guerre en Syrie, qui n'épargne personne, la brutalité sans limite du régime de Bachar el-Assad, sa capacité à semer le chaos qui a tant fait le jeu les extrémistes, le cynisme des bailleurs de fonds du Golfe qui ont largement contribué à la confessionnalisation du soulèvement, les erreurs pathétiques d'une opposition ô combien divisée et enfin le double jeu russe prêt à tout pour garder une influence en Orient. Et pourtant, voici qu'on découvre une autre pièce du dossier, l'incroyable dédain des États-Unis pour les opposants syriens, ceux de l'armée syrienne libre, héros du soulèvement populaire contre le régime, grâce à eux, grâce à leur réseau d'informateurs. Les Américains ont eu plusieurs fois, oui, l'opportunité unique de porter un coup fatal à l'organisation État islamique et ils n'ont rien fait. On a désormais des preuves irréfutables et ces preuves, on les doit au travail d'enquête de Benjamin Barthes qui a ainsi retrouvé la trace d'un maître espion de cette armée syrienne libre dont il a recoupé chacune des informations.
Et à quel moment, Vincent, ces informations stratégiques donc ont-elles été fournies à la CIA?
À deux moments, Nicolas. D'abord à la fin de l'été 2013, c'est un moment moment décisif, car c'est celui où affluent en Syrie des vagues de combattants étrangers. Ce maître espion syrien qu'on va appeler M, et qui appartient au Conseil militaire suprême, qui coordonne donc les activités des brigades de l'opposition, eh bien il s'alarme et il donne tous les renseignements nécessaires, très précisément. Son chef confie alors à l'ambassadeur américain auprès de l'opposition syrienne, basée en Turquie, si vous n'arrêtez pas ce flot de terroristes, dans les 3 mois, même les Syriennes porteront la barbe. Le deuxième moment, c'est à l'été 2014. Un plan est élaboré, soumis aux Américains. Un plan susceptible de bouleverser l'équilibre des forces dans le nord de la Syrie. Il est le résultat d'un travail de fourmi, des plans précis, des positions de Daesh, des photos, des adresses, des noms, tout semble prêt pour un bombardement terriblement efficace. Et là encore, les Américains hésitent, tergiversent et finalement déclinent.
Mais pourquoi, Vincent, pourquoi cette incroyable passivité ?
L'ambassadeur américain auprès de l'opposition syrienne, aujourd'hui à la retraite, donne des explications, Nicolas. Obama et son équipe, dit-il, ont toujours été très réticents à utiliser la force militaire en Syrie et à équiper les rebelles. L'inquiétude était double, précise-t-il, peur que les armes fournies aux rebelles ne soient pas seulement utilisées contre Daesh, mais aussi contre le régime, ce qui aurait constitué une violation du droit international, et peur aussi que ces armes finissent par atterrir dans les mains d'Al-Nusra, proche d'Al-Qaïda. On peut ajouter d'autres raisons, Nicolas. Obama reste traumatisé par le désastre de l'intervention américaine en Irak. Il estime que c'est aux États du Moyen-Orient de gérer leur propre chaos. Le chef de la Maison-Blanche le sait mieux que personne. Quand les Américains interviennent, on crie au scandale et les accuse d'ajouter à la catastrophe. Et quand ils s'abstiennent, on leur reproche aussi et les accuse d'être complices. Et le grand tragique de cette histoire, c'est que ce dilemme mortifère n'est pas vraiment soluble.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci et merci à nos 3 invités. Accablante enquête signée Benjamin Barthes. Merci Vincent de nous en avoir retransmis la substance à la Codemanie. Je vais y arriver, enfin. Merci beaucoup, journaliste franco-syrienne. Mégo Terzian, merci infiniment également. Merci. Président de MSF France, vous partez donc au Yémen où je vous souhaite beaucoup de courage. Il y a énormément de travail. François-Xavier Trégan, merci. Journaliste et co-réalisateur avec Thomas Dandois du documentaire Daesh, parole de déserteur, diffusé ce soir sur Arte. Le téléphone sonne à 19h20 sur un sujet qui n'a absolument rien à voir. On parlera d'intelligence artificielle. Vos questions 01 45 24 7000. Le journal sur Inter est à suivre.